Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Papillon, la directrice du développement durable et de la RSE de BNP Paribas Real Estate. J'ai pas pris un superbe accent anglais pour dire ça. C'est un acteur majeur de l'immobilier en Europe. Donc je suis ravie parce que c'est un sujet qu'on n'a pas trop eu dans l'Empreinte et surtout que tu m'expliquais en off que c'est en plus vraiment une activité encore à part. Puisque vous êtes intermédiaire, c'est ça ?
Bonjour Alice. Oui, en fait, on est la filiale de services immobiliers de la banque BNP Paribas. Et on a 6 métiers complémentaires. Et on a l'habitude de dire que nos 6 métiers couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier.
C'est-à-dire qu'on est promoteur.
Ouais. C'est-à-dire qu'on soit des immeubles, de bureaux ou de logements. On est agent immobilier. On commercialise des logements, des immeubles de bureaux, des entrepôts logistiques, des locaux d'activité, des commerces, des hôtels, etc. On a une activité d'expertise immobilière, c'est-à-dire qui donne la valeur d'un bien immobilier ou d'un portefeuille d'actifs immobiliers. On a une activité de conseil en stratégie immobilière pour les grandes entreprises. Une activité de property management, c'est-à-dire qu'on gère des immeubles, des services d'immeubles de bureaux pour des clients propriétaires d'immeubles de bureaux. Et puis, on a une activité d'investment management, c'est-à-dire qu'on gère et on crée pour compte de tiers des portefeuilles et des fonds immobiliers.
Et j'imagine qu'avec la conjoncture actuelle, vos métiers ont dû évoluer.
Oui, nos métiers sont en pleine transformation, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs économiques. On est confronté à 3 grandes transformations. La première transformation, c'est la transformation démographique, puisqu'on est aujourd'hui 7 milliards d'humains sur Terre. En 2050, on sera 10 milliards. 2/3 habiteront en ville.
Moi qui pensais qu'on faisait plus d'enfants. En fait, on vit plus longtemps, c'est ça. Hein.
Voilà, comme tu le dis, on est 4 générations qui coexistent. C'est la première fois de l'humanité que 4...
Qui tentent de coexister, mais qui
sont là. Il faut que ces humains puissent habiter, travailler, se déplacer, consommer.
Il y a quand même une extrême concentration en ville.
En ville. 2/3, 70% de la population sera urbaine en 2050.
Donc c'est un des mots du siècle. En plus, beaucoup de jeunes ne peuvent pas se loger. Et comment vous faites ?
Alors, comment on fait ? Face à ce premier défi démographique, on doit imaginer, nous, des immeubles de bureaux, ou en tout cas, on doit faire en sorte que les immeubles qu'on construit ou qu'on gère prennent en compte cette croissance, donc puissent se transformer dans le temps, pour ne pas être obsolètes.
C'est-à-dire par exemple, construire un immeuble de bureau qui pourrait être habitable après, c'est ça ?
C'est de se dire, oui, en effet, aujourd'hui, je construis un immeuble de bureau. J'essaye de le concevoir pour demain, pour être réversible, pour peut-être devenir autre chose qu'un immeuble de bureau, peut-être un immeuble de logement, du co-living.
Parce qu'avant, en fait, un immeuble de bureau restait un immeuble de... Et c'est pour ça qu'il y a plein d'immeubles vides.
Il y a des immeubles vides parce qu'ils ne répondent plus aux normes ou aux attentes des entreprises ou des personnes qui veulent y exercer leurs activités ou y habiter.
Mais qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de ces immeubles-là ?
Alors, on peut les transformer, les réhabiliter.
C'est quelque chose que vous faites, vous, par exemple ?
On commence à faire des réhabilitations, en effet, d'immeubles de bureaux. Et tout le travail va être de se dire comment je fais en sorte que ce que je conçois aujourd'hui, ça puisse demain s'adapter, être réversible et répondre aux besoins de demain, y compris ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'un immeuble de bureau, c'est au moins 50 ans.
Mais surtout qu'avec le télétravail, on est beaucoup moins au bureau.
On est moins au bureau, mais pour autant, on a besoin de se retrouver. On a besoin
ça, tu l'as remarqué, ça.
Ah oui, c'est clair. On a besoin de retrouver ses collègues, de travailler ensemble. Les modes de travail changent. Les plus jeunes générations, vous ne les mettez pas dans un bureau fermé comme avant. Donc, c'est du travail d'équipe, c'est du travail ensemble. Donc, ce qu'il faut, c'est que les immeubles de bureaux proposent ces espaces et donne envie aux salariés de venir travailler pour se trouver sur un mode projet, sur un projet particulier, se rencontrer, échanger. Mmh. Et donc, les bureaux, on a l'habitude de dire, c'est pas moins de bureaux, c'est mieux de bureaux. C'est-à-dire, c'est des espaces de bureaux, mais qui ne sont plus des bureaux comme on avait l'habitude.
C'est des grands espaces plutôt
Des grands espaces, mais aussi des espaces où on peut faire de la co-création, où on peut se réunir de manière informelle. Mais l'informel, finalement, quand on est dans un bureau, c'est aussi des échanges et donc du travail, l'échange d'informations et de la création ensemble. Donc, il faut créer ça pour donner envie de venir au bureau. Donc, les entreprises doivent se réinventer.
Et j'imagine qu'il y a on le voit, il y a des nouvelles réglementations, donc aussi dans la construction. Et quand vous repensez ces espaces de travail, il y a l'éco-conception, j'imagine, que
Alors,
vous prenez en compte.
Il y a le côté démographique dont je te parlais.
Ouais.
Après, je vais revenir sur mes transformations.
Ouais.
Il y a une deuxième transformation qui est digitale. On voit bien que le digital aujourd'hui est partout et il bouge la donne pour nous, acteurs de l'immobilier. Il peut être au service du bâtiment. Il va permettre, en partageant des données, de savoir... qu'il fait peut-être trop chaud à tel endroit, donc c'est pas très confortable, ou qu'il y a peut-être une panne quelque part et on va vite réparer, ou ça permet de partager des services, des salles de réunion, en temps réel. Donc on va mettre le numérique au service de la ville. Et puis il y a une troisième transformation, qui est la transformation environnementale.
Ouais, c'est celle-là dont je te parlais.
Celle-ci, elle est importante, puisque notre secteur de l'immobilier et de la construction est quand même responsable de 27% en France des émissions de gaz à effet de serre. Il faut agir au moment de la conception, donc ça va être en choisissant des matériaux qui sont biosourcés, par exemple, ou en faisant appel à de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va réemployer certains matériaux, certains équipements, on va en transformer certains, donc on va éviter de piocher dans les ressources naturelles. Il y a aussi, au moment de l'exploitation, faire en sorte de réduire les consommations énergétiques. On parlait tout à l'heure de bâtiments qui se transforment. Un bon moyen d'éviter que des bâtiments soient obsolètes, c'est de prévoir leur futur, ce qui puisse être réversible, qu'il y ait également des équipements qui soient utilisés sur une plus grande longueur. On peut très bien, ce qu'on appelle la chronotopie, un auditorium dans un immeuble de bureau, il va peut-être servir 3 heures par jour. Et puis c'est tout. On peut imaginer qu'ils servent le soir pour une association du quartier ou pour une autre entreprise à côté. Idem sur le restaurant d'entreprise, on peut le faire fonctionner le soir peut-être ou le week-end, les parkings idem, on peut mutualiser. Donc ce fonctionnement partagé permet aussi de réduire notre empreinte environnementale.
De réduire le gaspillage et puis la perte de ressources. Mais j'ai aussi une question. Comment vous arrivez à mesurer l'empreinte d'un bâtiment, par exemple? Parce que le but, c'est de l'optimiser. Donc, pour l'optimiser, il faut quantifier. Comment est-ce que vous faites ça? Vous êtes accompagné par des agences?
Alors, il y a des réglementations qui font qu'on doit mesurer typiquement. Et en France, il y a le décret tertiaire. On doit mesurer les consommations énergétiques d'un bâtiment tertiaire de plus de 1500 m². Et puis, proposer un plan d'action pour réduire cette consommation et reporter sur les efforts faits. Il y a la réglementation qui arrive, la réglementation environnementale 2020, qui aussi va un peu plus loin que l'énergie, va aussi sur les émissions carbone. Donc, il faut mesurer. Il y a des objectifs qui sont fixés, il faut mesurer.
De toute façon, ça va être demandé, c'est demandé aux entreprises. Donc
oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a des mesures qui se font et on essaie de par les matériaux, par la manière d'utiliser les bâtiments, par les équipements, par l'économie circulaire, on fait en sorte d'optimiser cette empreinte environnementale.
Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes principaux obstacles?
Alors, les espaces que je vois, hein, ce n'est pas les mêmes,
oui,
parce que
ce n'est
pas moi qui conçois les bâtiments.
Non, mais toi, justement, avec ton poste, ce que tu vois.
Ce qu'on voit, c'est il faut une volonté du concepteur, en fait, du maître d'ouvrage, de construire un immeuble.
Et ça, ce n'est pas encore dans les mœurs de
tout le monde. Si, mais c'est des nouveaux modes de construction, c'est des nouvelles manières de faire. Donc, il faut bouger toute une filière, il faut bouger les entreprises, il faut bouger les fabricants de matériaux, il faut que les filières soient prêtes, qu'il y ait suffisamment de matières premières, etc.
Ah oui,
donc,
c'est
des
ressources.
Nouveaux modes de construction, donc c'est des nouveaux métiers. Donc, c'est une grande transformation de toute l'industrie immobilière. Du coup, ça ne se fait pas d'un coup de cuillère, d'un coup de claquement de doigts.
Ouais, je pense que les ressources, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que c'était les obstacles que rencontrent beaucoup de personnes, parce qu'en voulant faire éco-responsable, même parfois quand tu me parles de recyclage, si tu n'as pas de choses à recycler, ça va être compliqué.
Si, il y a plein de choses. Un immeuble, c'est une vraie banque de matériaux. Si tu regardes un immeuble de bureau que tu démontes, Si tu le démontes correctement, tu peux réutiliser des faux planchers, tu peux réutiliser des moquettes, tu peux réutiliser des façades. On a sur un immeuble en Allemagne, on a réussi à faire des façades de réemploi.
C'est trop bien. Et pourquoi ça, c'est pas fait sur tous les immeubles?
Parce que la filière est pas forcément prête, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui démontent, mais il faut stocker parce que le jour où tu
après, hop,
non mais par exemple si tu veux te dire j'ai besoin de 25 000 m² de plancher, mais j'en aurai besoin dans 10 mois. Il faut que tu sois sûr au moment où tu passes la commande que dans 10 mois, tu auras tes 25 000 m² de plancher. Et si tu les trouves aujourd'hui, il faut que tu puisses les stocker. Et donc, c'est toute une organisation de la filière. Et on parlait en off un petit peu tout à l'heure de travailler ensemble pour y arriver. Je voudrais citer une initiative qui a été montée dans l'immobilier qui s'appelle le booster du réemploi, où on s'est mis plusieurs maîtres d'ouvrage autour de la table pour partir de la demande des maîtres d'ouvrage de matériaux, pour essayer de booster cette filière de réemploi de matériaux. Et l'idée, c'est... donc, on a travaillé avec l'IFPEB et A4MT, qui sont les pilotes de ce projet, sur une idée de Groupama Immobilier au départ, et on s'est mis à 35 autour de la table pour se dire, on va pour les immeubles que l'on a à concevoir, que ce soit en bureau ou en logement, sur une plateforme qui a été construite par Faber-Novel, poster nos demandes. Je vais avoir besoin de garde-corps, je vais avoir besoin d'enseignes de sortie, de secours, je vais avoir besoin de moquettes, de faux planchers, de cloisons, etc. Et on poste nos demandes. Et là, toutes les startups ou les entreprises qui revendent des choses viennent se pluguer, font leurs propositions. Et au-delà de ça, il y a tout un travail qui est fait pour travailler avec les assureurs, pour faire évoluer les pratiques pour que la garantie décennale puisse être possible, avec les fabricants de matériaux pour leur dire... Vous faites, je prends l'exemple des faux planchers parce que c'est un des premiers qui a été utilisé le plus fortement. Ben, pourquoi vous les fabriquez? Pourquoi vous les récupérez pas, les retransformez pas, etc., etc. Donc, pour faire avancer cette filière, et c'est cette force de frappe de 35 qui fait qu'on fait un petit peu bouger les lignes et qu'on veut progresser. Puis nous, à notre niveau chez nous, on a travaillé avec nos équipes pour voir aussi bien en promotion qu'en property management ou en asset management, en investment management, pour voir comment nous, on pouvait prendre ce sujet de l'économie circulaire systématiquement dans nos offres de services ou dans nos projets. Alors parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas la demande, parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Une fois qu'on a trouvé le matériau, qui est-ce qui va l'installer? Celui qui construit l'immeuble ne veut pas forcément le faire. Enfin bon, voilà. Il y a toute une modification de nos modes de faire qui se passe, et c'est ça qui est passionnant, en fait.
Ouais, je trouve que c'est... Mais moi, j'apprends beaucoup de choses, et ça répond complètement à ma question sur les freins et les limites que tu rencontres, parce que je vois qu'il y a quand même de belles initiatives, mais comme tu dis, il y a peut-être une maturité encore du secteur, mais qui va arriver, parce qu'il y a une urgence qui
ça
est là.
Ça bouge hein, énormément. Bah oui, puis en plus, la crise sanitaire a vraiment accéléré les choses. Tout le monde se bouge, mais pour bouger, comme je disais, ça ne se fait pas d'un coup claquement de doigts. C'est des business models, c'est des process qu'il faut modifier, c'est des choses à inventer.
Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs comme vous pour tirer le marché. Non, mais c'est ça. C'est aussi ce que j'aime dans l'empreinte, c'est qu'on a besoin des entreprises, on a besoin pour tirer justement ces marchés et se dire que... Bah, voilà, c'est les 35 glorieuses. Là, vous faites bouger les choses.
Oui, mais c'est ça qui est extra aussi, c'est que ce n'est pas tout seul qu'on va y arriver.
Non.
On arrive à transformer de l'intérieur, mais tout seul, on ne peut pas. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir toute cette co-création qui se fait et la volonté des entreprises d'avancer. Donc, c'est...
Avec les startups. Et donc là, si les startups écoutent, elles peuvent se pluguer à votre projet? Comment elles peuvent faire?
Elles vont sur la plateforme si elles ont... Il y a des offres de startups qui récupèrent des matériaux et qui viennent nous les proposer. Mais pas que les startups, les industriels aussi, les grandes entreprises.
Les particuliers. Et c'est quoi tes prochains challenges?
Moi, en tant que directrice développement durable...
Comme tu veux.
Bah, le prochain challenge chez nous, c'est on a défini avec nos métiers une politique bas carbone, avec des objectifs,
comme tout le monde, hein,
oui, mais voilà.
Mais j'aime bien ta formulation et pas neutralité carbone, parce que là, l'ADEME a sorti je sais pas si tu as lu l'article sur le greenwashing des marques et leur neutralité carbone, où il faut arrêter en fait d'utiliser ce terme-là, parce que c'est un peu obsolète. Donc là, j'aime bien le terme bas carbone. C'est de réduire au max,
et puis faire tous les efforts pour réduire. Et puis, bah, pour avoir cette neutralité, le résiduel, mais vraiment, une fois qu'on a fait tous les efforts, c'est de compenser en créant des puits carbone ou en reforestant, enfin replantant ou participant à des projets qui permettent de capter le carbone.
Et c'est lesquels, toi, qui ont le plus de sens pour vous? Parce que j'imagine que quand c'est comme ça, sur la compensation, on a toujours des sujets clés. Toi, c'est la biodiversité, c'est les...
Ah bah alors, la biodiversité, c'est aussi un sujet important. Nous, nos sujets du moment, c'est tout ce qui est bas carbone, y compris économie circulaire, avec là aussi des feuilles de route opérationnelles par métier pour vraiment prendre en compte ce sujet concrètement. Typiquement, là, on a sur différents bâtiments, on essaie de pousser l'économie circulaire au maximum. Et on a fait un petit démonstrateur, parce qu'on aime bien mettre en œuvre un démonstrateur. On l'a fait pour la biodiversité sur notre siège, ou là, sur le bas carbone, où on fait un espace qui est complètement conçu avec du réemploi, du biosourcé, du circuit court, ou du
ce qu'on appelle upcyclé. En fait.
Upcyclé, c'est-à-dire transformer, c'est-à-dire réparer ou transformer. Et en fait, oui, c'est possible,
c'est un
petit et ça peut
hub.
Être beau.
C'est ça, en fait, c'est un petit...
C'est un démonstrateur. Moi, j'appelle ça un démonstrateur. C'est une manière de montrer que faire de l'économie circulaire du réemploi, c'est pas forcément des palettes en bois, mais ça peut être aussi joli que...
Je t'inviterai chez moi, tu verras, c'est très joli.
Et tu me disais la biodiversité, du coup, c'est
La biodiversité, c'est un de nos sujets aussi qu'on a embarqué de manière très structurée depuis 2018. 2016, où on a gagné un projet, dans le cadre de l'appel à projet de la ville de Paris, Réinventer Paris, où on avait une ferme urbaine et des potagers sur le toit de l'immeuble. Et on s'est dit, mais c'est super, mais l'immeuble va sortir dans 3, 4 ans, 5 ans même. Enfin, pas tout de suite.
Comment ça marche?
Et on a proposé, en fait, de faire un démonstrateur de ferme urbaine sur le toit de notre siège, qui avait 640 mètres carrés, qui était une terrasse qui ne vivait pas forcément, puisqu'il y avait la salle du conseil devant, donc les collaborateurs n'osaient pas y aller. Et on s'est dit, on va faire un démonstrateur. Et donc, en 2018, on a installé cette ferme urbaine avec trois objectifs. Un démonstrateur à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos équipes, de la manière de concevoir, installer, gérer une ferme urbaine sur un immeuble existant, sans que ça coûte énormément et sans faire de gros travaux. Deuxième objectif, c'était d'en faire un laboratoire, puisqu'on a des bacs expérimentaux, 18 bacs expérimentaux, où il y a différentes hauteurs de bacs, différents types de substrats, différents moyens d'arrosage, toujours les mêmes plantes, et on mesure, voir ce qui est le plus rentable en fonction de l'arrosage, de la hauteur du substrat, etc. etc. Et le troisième objectif, c'était d'en faire un lieu à la fois de détente, de convivialité et de sensibilisation pour nos collaborateurs, parce qu'on sait que la biodiversité, il y a plein d'études qui montrent que ça génère du bien-être, ça apaise, ça a un impact sur la productivité, sur la sensation de bien-être, et ça crée des liens. Donc, on a prévu 26 potagers verticaux qui sont attribués à des collaborateurs volontaires. Il y a ce qu'on appelle un community farmer qui vient l'entretenir, parce qu'il faut que ce soit toujours, on est sur notre lieu de travail, donc on ne peut pas forcément aller entretenir quand on a des rendez-vous. Donc, que ce soit toujours entretenu, mais on peut y aller pour aider à planter, à récolter et voir comment ça pousse, à quel moment on mange quoi. Et puis, à temps en temps, des ateliers. Et ça crée vraiment du lien et de la détente.
Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose ou transmettre un message? Ou les deux, en général?
Message.
On
vit une période fabuleuse de grande transformation.
Alors, fabuleuse Oui, mais
non,
en fait...
Non, mais il faut positiver.
Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi.
J'exagère.
Mais fabuleuse, on me dirait, mais Alice, tu vis dans un monde de bisounours. Non.
Mais je suis un peu, moi, dans le monde de bisounours.
Faut rester. Sinon, on va devenir anxieuse.
Quand on fait ce travail de développement durable RSE, si on n'est pas optimiste et si on ne prend pas les choses en main, voilà.
Alors, je suis d'accord.
C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui embarque les gens, qui a un véritable impact. Évidemment, environnemental, économique aussi, parce que c'est vraiment une manière de se différencier et d'attirer les talents.
Et puis, il y a un impact social.
Il y a un vrai impact social. Et de pouvoir travailler sur ces trois sujets, d'en faire son métier et d'aider l'entreprise à le faire, c'est fabuleux. Donc, c'est l'affaire de tous. On peut tous, à notre échelle, faire un petit bout. Et c'est collectivement qu'on arrivera à le relever, ce challenge, défi environnemental et social.
Voilà. La force du collectif.
Oui, la force du collectif.
Merci beaucoup.
Merci pour cet épisode, Alice.
J'ai appris plein de trucs. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.